Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans la collecte de cette messe, nous avons demandé « Ut semper per rationabilia meditantes, quae tibi sunt placita, et dictis exsequamur et factis » que, méditant toujours ce qui est raisonnable, nous recherchions les choses qui plaisent à Dieu, en parole et en action. Les choses qui plaisent à Dieu. L'expression est très belle. On la trouve dans le prophète Baruch. Heureux sommes-nous, Israël, car les choses qui plaisent à Dieu nous ont été révélées. Quelles sont donc ces choses qui plaisent à Dieu? La Sainte Écriture en signale plusieurs. C'est d'abord la sainteté et la fuite du péché. Nec tibi placiat malorum via, dit le livre des Proverbes. Seigneur, la voix des méchants ne vous plaît pas. Les choses qui plaisent à Dieu, c'est encore l'humilité. Dans l'Évangile, notre Seigneur se réjouit de ce que son Père a révélé ses secrets aux petits et aux humbles, et non pas aux savants. Sic fuit placitum antete. Il vous a plu qu'il en fût ainsi. Et puis c'est encore la foi. Sine fide impossibile est placere Deo. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ce qu'affirme saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Mais les choses qui plaisent à Dieu, c'est également la fidélité. Comme l'explique Judith aux habitants de Béthulie, qui étaient effrayés par l'invasion de l'armée d'Holopherne. Tous ceux qui ont plu à Dieu sont ceux qui sont demeurés fidèles à travers de nombreuses afflictions. Pour plaire à Dieu, il faut donc être fidèle, rester fidèle, même au sein de l'affliction. Nous voudrions développer cette idée ce matin, parce qu'elle est très importante. Au jour de notre baptême, nous avons émis une promesse. Nous avons solennellement promis de renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et de suivre Jésus-Christ pour toujours. En vertu de cette promesse, nous sommes tenus à la fidélité et à la persévérance. Et cette obligation de persévérer fidèlement est double. C'est une obligation de justice, puisque nous avons promis. Et puis c'est une obligation de charité, à cause de tout ce que Dieu a fait pour nous. Notre fidélité est donc d'abord une obligation de justice, car toute promesse engage et doit être tenue. C'est là un précepte de la loi naturelle, une question de véracité, et a fortiori quand il s'agit d'une promesse faite à Dieu et à l'Église. On ne se moque pas de Dieu. Et en effet, la promesse de notre baptême nous engage d'abord envers Dieu, et cet engagement est à la mesure de la révérence et de la gratitude que nous lui devons. Or Dieu est notre Créateur, notre Père, notre Rédempteur. Et à ce titre, il a tous les droits sur nous, et nous lui devons tout. D'autant que Dieu, lui, est parfaitement fidèle. Il nous donne tout ce qu'il faut pour que nous devenions des saints, même dans les situations les plus difficiles. Alors que pourtant, lui n'y gagne rien, absolument rien. Dieu est un créancier généreux qui n'a besoin de rien, dit saint Augustin. Il ne s'accroît point de ce qu'on lui rend, mais fait croître en lui ceux qui s'acquittent de leurs dettes. Et saint Paul a donc bien raison de dire, si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui, mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, cependant, reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Notre promesse, donc, nous engage vis-à-vis de Dieu. Elle nous engage aussi vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis de notre prochain. En effet, la fidélité des chrétiens à leurs obligations est non seulement un hommage rendu au droit de Dieu, mais c'est aussi un témoignage public de la vérité et de la sainteté du catholicisme. C'est la preuve qu'il est possible et très avantageux d'être catholique et de l'être intégralement, que c'est la voie du bonheur véritable, la voie du salut, et donc qu'il est nécessaire de connaître et d'aimer Jésus-Christ, de renoncer aux tentations du monde, de combattre l'erreur et le vice et d'œuvrer à l'établissement du règne de Dieu sur la terre. Tout ça, c'est ce que prouve la fidélité des catholiques. Tous les gens qui voient cela de l'extérieur peuvent, grâce à cet exemple, en être convaincus. Et inversement, l'infidélité des chrétiens, c'est comme un démenti apporté à l'Évangile et à l'Église. En ne persévérant pas, en donnant l'image d'une vie déréglée ou d'une vie tiède, le catholique fait mentir l'Église dans son affirmation qu'elle est la seule vraie religion et la seule capable de sauver les hommes. Ce mauvais catholique insinue, au fond, que les moyens proposés par l'Église et par la tradition catholique ne sont plus adéquats, qu'il faut en changer, qu'il faut s'aligner sur le monde moderne et qu'on peut très bien vivre sans pratiquer sa religion. Or, cela, c'est une sorte d'apostasie pratique. C'est un scandale au sens étymologique du mot, c'est-à-dire une occasion de chute pour le prochain, un encouragement à l'indifférence religieuse. Sans parler en plus de l'ingratitude qu'une telle attitude recèle. L'infidélité des mauvais chrétiens non seulement nuit à la cause catholique, mais elle rend inutile la sollicitude de l'Église envers eux. Alors, nous le voyons bien, nous sommes vraiment tenus à la fidélité pour une raison de justice. C'est juste. Mais notre persévérance est aussi une obligation de charité, pas seulement de justice. L'amour est au principe de notre engagement de baptiser. Alors il doit être aussi au principe de notre fidélité à cet engagement. Et c'est la diminution progressive de cet amour qui met en danger notre persévérance. Le jour où, pour avoir laissé décroître notre attachement à Jésus-Christ, ou pour avoir laissé se refroidir notre charité, nous en venons à n'être plus attachés à la pratique religieuse que par la contrainte de la parole donnée ou par l'habitude, alors notre fidélité est en grand danger et il est même sans doute déjà trop tard pour réagir. Il faut donc souvent méditer notre vocation de baptiser. Voilà une méditation qui est bien raisonnable, comme nous y invite l'oraison d'aujourd'hui. Réfléchissons que Dieu nous a fait l'infinie miséricorde de nous appeler au baptême, qu'il nous a donné sa propre vie divine, sans aucun mérite de notre part, par un don purement gratuit, qu'il nous a donné la grâce de l'adoption, il a fait de nous ses enfants, nous a configurés à son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme le dit saint Bernard, Dieu est venu non seulement à vous, mais il est venu en vous. Alors, comment méconnaître et oublier tout cela? D'ailleurs, pourquoi nous aurions très bien pu être païens, ou naître dans un pays ou une famille musulmane ou bouddhiste? Nous aurions pu tout ignorer des merveilles de la foi chrétienne et des trésors de la rédemption, comme des millions de nos contemporains. Quand on regarde le monde aujourd'hui, nous sommes qu'une infime minorité. Le bon Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire. Bien plus, nous devons constater que toutes les fois où nous avons manqué à nos obligations de catholiques, toutes les fois où nous avons été infidèles, ou pécheurs, ou rebelles, Dieu nous a attendus et nous a rattrapés, comme l'enfant prodigue de l'Évangile. C'est toujours lui qui a eu l'initiative. Alors tout cela nous crée des devoirs de reconnaissance, des devoirs de charité, des devoirs de fidélité. Comment ne pas rendre amour pour amour à un Dieu qui nous a tant aimés? Comment ne pas être fidèle envers un Dieu si fidèle? D'autant plus que s'il nous est loisible peut-être d'être ingrat et de rejeter ce Dieu qui a tant fait pour nous, il nous est impossible d'effacer ce qui a existé, de faire comme si nous n'avions jamais cru ni jamais aimé. Quand bien même nous deviendrions infidèles, rien ne pourra empêcher que nous ayons été bénéficiaires d'un amour spécial de Dieu. Et cet amour attend en retour des marques d'amour. Et puis, il y a encore plus. Il faut nous souvenir que l'amour exige le progrès. C'est sa loi. L'amour réclame non seulement la réciprocité, il n'admet pas le partage, ni la médiocrité, mais il tend par nature à grandir, à se perfectionner. Et cela est spécialement vrai de l'amour de charité. Notre Dieu est un Dieu jaloux, comme dit l'Écriture. Il veut que nous l'aimions de tout notre cœur, sans mesure, et chaque jour un peu plus. En nous engageant à aimer Dieu par-dessus toute chose, au jour de notre baptême, nous nous sommes donc engagés à tendre vers un amour toujours plus parfait, toujours plus total. Estote perfecti, c'est la parole de notre Seigneur dans le Sermon sur la montagne. Soyez parfaits, devenez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dans cette perspective, l'infidélité est non seulement une trahison de l'amour initial, mais elle est également une trahison de la loi du progrès de l'amour. Et si l'on y réfléchit, on doit convenir que cela est proprement monstrueux. A-t-on jamais vu un fils réclamer à son père la permission de l'aimer moins qu'auparavant? C'est impensable. Nous devons donc être non seulement fidèles, mais de plus en plus fidèles pour plaire à Dieu. Et on s'explique dès lors que notre Seigneur ait beaucoup encouragé la fidélité et la vigilance. Spécialement dans ses derniers enseignements, les jours qui ont précédé la passion, comme s'il avait voulu, avant de mourir et de remonter au ciel, nous prémunir contre les pièges de la lassitude et les dangers de la contamination par l'esprit du monde. Regardez l'Évangile, vous verrez que toutes les dernières paraboles, tous les enseignements de notre Seigneur à la fin de sa vie, dans les jours qui ont précédé la passion, parlent de la vigilance et de la fidélité. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison pour leur distribuer leur nourriture en temps convenable? Heureux ce serviteur si son maître, à son arrivée, le trouve agissant ainsi. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur est méchant et dit en son cœur « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra au jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le séparera et lui assignera sa part avec les hypocrites. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et de même, dans la parabole des talents, qui est l'une des dernières prononcées par Jésus, le maître, dans la parabole, dit à ceux qui ont fait fructifier leurs talents, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et dans Saint Luc, on trouve encore cette parole de Jésus, qui à elle seule est tout un programme. « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle aussi dans les grandes, et celui qui est infidèle dans les petites choses sera infidèle aussi dans les grandes. » Alors, quel est le grand moyen qui nous est donné pour rester fidèles? Eh bien, le grand moyen de la fidélité, c'est l'amour de la croix. C'est par la croix que l'on devient fidèle et qu'on le reste. Et inversement, si l'esprit de sacrifice se détend peu à peu, on est sans ressources au jour de l'épreuve et on tombe facilement. Et pourquoi la croix est-elle la meilleure école de fidélité? Eh bien parce que la croix nous dépouille de nous-mêmes. Elle nous purifie de tous nos égoïsmes. La croix nous rend généreux. Et en même temps, elle nous attache à Jésus-Christ. Elle nous conforme à son sacrifice accompli pour l'amour de nous. La croix de Jésus nous instruit. Elle nous fortifie à travers son image. À son contact, on a honte d'être si mauvais chrétien et on prend courage dans la pensée de l'amour et de la puissance de Dieu. La croix est donc vraiment la voie la plus sûre de la fidélité et de la persévérance. Il ne faut pas rejeter la croix. Et telle est précisément la leçon que nous ont laissé les martyrs. Toute l'histoire de l'Église est émaillée par le martyr. Tous ces martyrs ont puisé dans la croix de Jésus la force d'aller jusqu'au bout, d'aimer Dieu jusqu'au bout, d'être les fidèles témoins du Christ jusqu'au don de la vie. Vous savez que le mot martyr veut dire en effet témoin. Les martyrs, ce sont les témoins fidèles par excellence. Prenons juste deux exemples très brefs. Saint Polycarpe, disciple de Saint Jean l'Évangéliste, évêque de Smyrne en Asie mineure, martyrisé en 155. Au proconsul qui lui promettait la liberté s'il jurait par la fortune de César, c'est-à-dire s'il blasphémait, et s'il injuriait le Christ, Polycarpe s'est contenté de répondre « Voici 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi et mon sauveur ?» Et il fut brûlé vif. Et de même, souvenez-vous, saint Ignace d'Antioche, arrêté à Antioche, c'est à peu près la même époque que saint Polycarpe, 50 ans avant, arrêté à Antioche, en Syrie, conduit, chargé de chaînes jusqu'à Rome, pour y être dévoré par les bêtes. Pendant la route, il écrivit aux chrétiens de Rome pour les supplier de ne pas intervenir en sa faveur auprès des autorités. Voici ce qu'il leur dit. « Pour moi, jamais je n'aurai une telle occasion d'atteindre Dieu. Je vous en supplie, n'ayez pas pour moi une bienveillance inopportune. » Laissez-moi être la pâture des bêtes par lesquelles il me sera possible de trouver Dieu. Je suis le froment de Dieu et je suis moulu par la dent des bêtes pour être trouvé un pur pain du Christ. C'est alors que je serai vraiment disciple de Jésus-Christ. Implorez donc le Christ pour moi, pour que par l'instrument des bêtes, je sois une victime offerte à Dieu. Mon désir terrestre a été crucifié. Il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière, mais en moi, il y a une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi, « Viens vers le Père ». Et toute la lettre est de cette même mouture. Ce sont des choses vraiment extraordinaires qu'il faut connaître et lire. Voilà donc à quelle fidélité mène l'amour de la croix de Jésus. Et c'est le même enseignement que saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, rappelle à ses correspondants qui étaient ébranlés par les persécutions. L'Épître aux Hébreux est adressée, pense-t-on, à d'anciens prêtres juifs convertis au christianisme, mais qui étaient ébranlés, parce que déjà l'Église était quelque peu persécutée. Alors saint Paul leur montre que Jésus, le premier, a été fidèle et qu'il faut le suivre dans cette fidélité. Et loin de les amollir par des discours lénifiants, ou de leur proposer une spiritualité sentimentale, une ascèse mitigée, il les virilise au contraire, en leur montrant la grandeur de la croix et la nuée des martyrs de la foi qui les ont précédés. Tous les saints de l'Ancien Testament, tous ces grands hommes qui ont été martyrs de la foi. Alors voici ce que saint Paul leur écrit. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous entoure, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de la foi, Jésus, qui, au lieu de la joie qu'il avait devant lui, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même, de la part des pécheurs, une telle contradiction, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, car vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous voyez que saint Paul leur tient un langage viril, un langage très fort, très ferme, et c'est ainsi qu'il les encourage vraiment à la fidélité. Alors, mes frères, écoutons ce conseil que le Christ donne dans l'Apocalypse à l'ange de l'église de Smyrne. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Il faut être fidèle jusqu'à la mort pour avoir la couronne de la vie du ciel. Prions la Vierge Marie que l'Église honore sous le beau titre de Virgo Fidelis, Vierge fidèle. Demandons-lui qu'elle nous accorde la persévérance et la fidélité et que nous puissions redire à Dieu chaque jour, en toute vérité, la parole que le prêtre va dire dans quelques instants à l'offertoire. Sic fiat sacrificium nostrum, ut a te suscipiatur odie et placeat tibi. Que notre sacrifice soit agréé par vous aujourd'hui et qu'il vous plaise, Seigneur Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.